8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, vous le savez, comme chaque mois, l'émission est consacrée à vos recherches d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé, c'est le moment de poser toutes vos questions à nos spécialistes. Vous nous appelez, surtout vous postez vos CV sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Yann Azoumé.
Bonjour Emmanuel. Bonjour les voisins et les voisines.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir chez 8 milliards de voisins. Vous êtes consultant en ressources humaines, chasseur de tête. Comment valoriser ses diplômes, ses expériences, ses compétences? Tout doit transparaître sur le CV, c'est bien ça, hein?
Absolument.
Agnella Vekwaku également en direct avec nous, fondatrice de Agiloya Afrique à Abidjan. Bonjour Agnella.
Bonjour Emmanuel, bonjour Yann, bonjour à tous nos talents connectés.
Toujours fidèle au poste, Agnella, le CV c'est très important, mais pour quelqu'un qui lit tous les CV en 30 secondes comme vous, il n'y a pas que le CV, surtout quand on veut se reconvertir, on a pas mal de questions à ce sujet. Hein. Le réseau ça peut compter aussi quand on veut changer de vie et de métier.
Surtout aujourd'hui, avec un monde aussi connecté, effectivement, le réseau peut faire toute la différence.
Ouais, alors il faut s'y mettre. Hein. Dès le début de ses études, à se créer son petit réseau de connaissances, de professionnels. En fin d'émission, on aura un nouvel épisode de notre série « Le succès des repas » réalisé par Charlie Dupio. Rentrer au pays pour entreprendre, créer des emplois, c'est leur rêve. Ils l'ont accompli. Et aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Karine Ozouaki, qui produit des cosmétiques « Made in Libreville ». Vos questions sur vos recherches d'emploi, c'est parti.
Huit milliards de voisins.
Comment les gens vivent? Qu'est-ce qu'ils font?
Être voisin, c'est partager le même espace, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
RFI, les voix du monde.
Et aujourd'hui, nous parlons boulot. Ben oui, il faut bien vivre, hein. Percevoir un salaire. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Nous accueillons Johanita, 27 ans. Bonjour Johanita, soyez la bienvenue. Vous nous appelez de Cotonou.
Bonjour Emmanuel, bonjour voisin, voisine.
Eh bien, alors, Johanita, vous avez une formation de journaliste reporter d'image. Vous avez posté un CV qui est très clair, très bien mis en page. Après, je laisse les spécialistes donner leur point de vue. Vous êtes diplômée d'une licence professionnelle depuis février 2025 en journalisme à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, qui est une école reconnue par l'État. Vous avez déjà une expérience de 4 mois à la SRTB, c'est-à-dire Bénin TV, Bénin Radio. C'était un stage. Comment vous l'avez obtenu, ça, Johanita?
Je dirais pour mon stage, je l'ai fait à Bénin TV.
Oui.
Je n'ai pas passé un entretien, on m'a recommandé.
D'accord.
Donc, je suis allée déposer mes documents, c'est-à-dire le document à fournir. Donc, ils m'ont pris et j'ai commencé mon stage.
D'accord, vous avez vous avez eu un petit coup de pouce, comme on dit. D'accord. Alors, quelles sont vos questions, Johanita, pour nos spécialistes? On vous écoute.
Oui, j'ai deux questions. Ma première question, c'est comment se débarquer, c'est-à-dire comment faire en sorte que mon CV tape à l'œil d'un recruteur. D'accord.
Oui.
Comment se démarquer? Et ma deuxième question, c'est comment passer un entretien? Parce que, sincèrement, moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment passer un entretien pour que ça se passe bien, pour que le recruteur sache que, tout au moins, tu as quelque chose à porter sur la table? Donc, ce sont mes deux questions.
Bon, alors, Yann Azoumé va vous répondre déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider Johanita, 27 ans, qui a bien démarré avec un stage, bon, sans avoir besoin de passer d'entretien d'embauche. Mais déjà, qu'est-ce que vous pensez de son CV?
Mais son CV est bien présenté sur l'information qui est nécessaire. Elle est visible. Juste un petit conseil à Johanita. Je reprends ces mots, en fait. Taper à l'œil... Et frapper le regard, ça peut être deux choses différentes. Je recommanderais que les couleurs extrêmement vives, le rouge fuchsia par exemple, Il faut y renoncer. Roche fuchsia, point orange, pour une raison simple, c'est qu'en fait, dans une lecture rapide d'un CV, on va à l'essentiel et ces éléments-là sont autant d'éléments perturbateurs. Pour l'attention du recruteur qui a 50, 100 CV à lire en une journée, par exemple. Donc, quand c'est possible et quand rien ne le demande, c'est des éléments qu'il faut éviter.
C'est la colonne de gauche qui est sur fond rose vif avec les compétences, les langues, les centres d'intérêt, etc.
Voilà, mais tout ça, c'est à la marge et c'est pour être vraiment... Voilà.
Aniela Vekwaku. Oui, allez-y.
Oui, non, mais c'est drôle à entendre parce que moi j'aimais bien ce rose, Yann.
Ben oui, moi aussi, j'ai pas osé le dire.
J'aimais bien. Mais Yann dit quelque chose d'important. L'essentiel, c'est vraiment qu'on puisse se concentrer sur l'expérience et qui est Juanita, pourquoi est-ce qu'elle s'adresse à nous. Donc, effectivement, elle a mentionné son projet professionnel, peut-être juste préciser expérience télé, radio. Elle a aussi une phrase d'introduction qui est très bien structurée, donc bravo.
Passionnée par l'information. Et la narration. Je vais la lire parce que je trouve que ça sert de modèle. Ouais. Passionnée par l'information et la narration, titulaire d'une licence en journalisme, je suis à la recherche d'une opportunité pour mettre en pratique mes compétences en rédaction, reportage, montage. Curieuse, réactive, rigoureuse, je suis prête à m'investir pleinement pour produire un contenu de qualité et captivant. C'est bien écrit, c'est clair.
C'est bien écrit et je trouvais justement que ce rose portait bien en fait, voilà. Mais après c'est vraiment susceptible, c'est vraiment quelque chose de personnel et peut-être aller vers des couleurs, des tons un peu neutres parce que encore une fois les recruteurs sont différents.
Concernant l'entretien d'embauche peut-être, Aniela, l'entretien d'embauche puisque Juanita a la chance de ne jamais avoir eu besoin de passer l'entretien d'embauche pour le moment.
Mais oui, mais il faut quand même toujours s'entraîner avec des personnes dans vos alentours, vous présenter votre parcours en 2-3 minutes, donc les missions réalisées, et aussi parler vraiment de votre expérience, prendre des exemples assez concrets de sujets réalisés. Si vous n'avez personne autour de vous, vous répétez devant un miroir ou alors avec un proche. Et puis on ne sait jamais, s'il y a une question qui déstabilise, moi je recommande vraiment d'oser dire qu'on a pas été confronté à cela, mais qu'on est absolument prêt à apprendre et à affronter la situation.
Vous aviez autre chose à ajouter sur le CV, Aniela, sur le CV de Juanita?
Oui, quand même. Et merci de me reposer la question. Un lien quand même, Google Drive, pour qu'on puisse voir ses réalisations, parce que nous, on veut voir le concret, les compétences, on veut les sentir. Et puis, pourquoi pas préparer un portfolio qu'elle pourrait rajouter en complément de son CV, ce serait pas mal.
D'accord.
Yann,
un complément, Juanita. Souvent, les talents se posent la question de savoir comment réussir un entretien de sélection. Il faut se mettre dans la peau de l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur cherche? Il cherche à être rassuré. Et souvent, l'employeur dissémine dans les annonces comme des indices, comme des pistes. Et il faut considérer les annonces comme un jeu de rôle. C'est-à-dire, on identifie ce que l'employeur a dit ou a voulu dire comme étant important et on se prépare en répondant. On isole ces 2-3 éléments, qu'ils soient des éléments de compétence ou des éléments de personnalité, et on prépare des éléments de réponse illustratifs, de sorte que on n'est pas surpris et quand la question arrive, on répond naturellement. Et ça, c'est quelque chose souvent que les talents oublient de faire.
Juanita, moi, j'ai vu dans vos compétences personnelles, il y a l'esprit d'équipe, il y a la résistance au stress.
Emmanuel, j'ai vraiment du mal à vous entendre.
Ah, désolé. Est-ce que là, vous nous entendez mieux, Juanita? Bon, je crois qu'on a perdu Juanita. En tout cas, Juanita, j'espère qu'elle a pu bien entendre les conseils. Vous restez avec nous, Yann Azoumé, Aniela Vekwaku. Vous continuez de nous appeler, les voisins, les voisines, au 33-7, 64-45. 51-41, merci à Juanita pour ces questions. Nous accueillons Tony Reich, qui a 25 ans, qui est à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Bonjour Tony Reich.
Bonjour à tous et à toutes.
Soyez le bienvenu. Oh, un ton très sérieux. Tony Reich, vous êtes diplômé d'une licence en finance et gestion bancaire de l'institut privé CEREC-ISCOM. Vous êtes diplômé en 2022. Vous avez fait pas mal de stages, pas tous dans votre domaine d'ailleurs. Et votre préoccupation, ce sont les entretiens d'embauche. C'est pour ça que je parlais du stress avec Johanita qui nous disait qu'elle avait une bonne capacité de résistance au stress. Quel est le problème en fait, Tony Reich? Vous avez raté plusieurs entretiens d'embauche ou vous estimez avoir raté plusieurs entretiens d'embauche?
Non, j'ai raté plusieurs entretiens d'embauche.
C'est-à-dire?
Maintenant, le grand problème, c'est... J'aimerais poser au sein des conseillers, j'ai deux questions à poser.
Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, pourquoi vous estimez avoir raté des entretiens d'embauche? Qu'est-ce qui vous dit que vous les avez ratés? Peut-être que vous n'aviez pas le bon profil pour le poste ou... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces entretiens?
C'est pas une question de profil de poste ou comment. Ouais. Mais c'est question que non... lors de l'entretien, j'ai souvent le stress et l'anxiété. Mmh. Donc, quand les questions s'enchaînent, je suis juste là à reprendre, juste comme ça, sans pourtant me rendre compte. Maintenant, j'aimerais savoir comment bien gérer mon stress, comment bien préparer mon entretien.
Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question qui vous a profondément déstabilisé?
Bon, la plupart du temps, c'est quand j'ai su le dire en amont, à toute fois, Chaque offre a souvent des questions.
Oui.
C'est comme récemment, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai eu à passer un entretien où il y avait des questions psychotechniques. C'est un entretien oral. Bien avant de passer à un entretien physique, c'est avant un entretien oral. C'est comme un exemple précis. Comme exemple précis, on me pose la question concernant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis au Congo. Donc ces questions de culture générale, là, en fait, je ne sais pas si c'est la tendance actuelle où les entretiens changent. Quoi.
C'est-à-dire des questions sur le contexte politique en Côte d'Ivoire, sur la crise politique en Côte d'Ivoire. Je ne saisis pas bien, là, Tony Reich.
Les questions concernant la culture générale, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2002.
D'accord.
Donc juste après l'entretien téléphonique, je me suis rendu compte que non, c'était la crise économique, la guerre civile qui s'était passée en Côte d'Ivoire. Donc...
Et une autre question aussi où vous vous êtes senti déstabilisé?
Bon, concernant la question de savoir quelle est la valeur ajoutée que je pourrais donner au sein de l'entreprise.
Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Alors, c'est quand même deux questions très différentes. Agnelle Avekwakou, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Tony Reich? D'abord, pour qu'il ne perde pas ses moyens. Et puis, ce type de question, est-ce que c'est fréquent ou pas?
Alors déjà, moi je vais rassurer Tony Reich. Vous savez, nous recruteurs, nous sommes aussi stressés parce que nous avons des enjeux importants et nous ne devons pas nous tromper via le processus de recrutement qui, avec tous ces outils, c'est-à-dire des entretiens, des questionnaires de personnalité, des tests d'aptitude, permettent en fait de nous assurer de ce que vous êtes effectivement la personne pour le poste et pour l'environnement avec la fameuse valeur ajoutée qu'on va chercher à identifier, à mesurer, à observer pendant le processus. Donc, tout est une question, Yann le disait tout à l'heure, d'anticipation, de connaissance de l'entreprise, de connaissance du poste, de connaissance vraiment, je veux dire, de vous, de votre expérience. Développez cette curiosité, ne postulez pas pour postuler, parce qu'on peut avoir en face de nous des personnes qui cherchent du travail. Alors, on a tous besoin de travail, mais il faut s'assurer que vous avez vraiment les connaissances, les compétences et la motivation. Et ça passe par vraiment de la curiosité, d'accord? Donc, plus vous allez vous renseigner sur le domaine, le métier, l'environnement, plus vous aurez les réponses adaptées que nous recherchons pendant les entretiens et pendant le processus.
Quelle est la valeur que vous allez apporter à l'entreprise? C'est quand même une question qui est très souvent posée. Yann Azoumé.
Oui, tout à fait. Et c'est une question qui est légitime. L'employeur, en posant cette question, cherche à évaluer la capacité que vous avez à vous projeter dans le rôle.
Donc, il faut la préparer, cette question.
Il faut la préparer.
Absolument à l'avance. Absolument.
Ça suppose d'avoir...
En demandant des conseils autour de soi, etc., pour la préparer.
Sur l'entreprise, sur où elle en est, et ce que vous pouvez apporter du point de vue de vos compétences, mais également du point de vue de ce que vous êtes en tant que personne.
Ouais. Une question de culture générale sur un autre pays que le pays où on habite. À moins de postuler pour un poste, on sera amené à voyager dans des pays du continent. C'est quand même un peu la question piège, là, franchement.
Honnêtement, une question...
Tony Reich n'est pas censé connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire.
Qui n'est pas en relation directe avec la manière dont le candidat est censé réaliser sa mission. il ne faut pas qu'ils se sentent coupables de ne pas y répondre. Il y a quelque chose que moi j'ai vu faire qui marche très bien, c'est de pouvoir dire en toute honnêteté au recruteur, honnêtement, cette question, je n'ai pas de réponse, il ne faut pas faire semblant. Mais je me propose, à l'occasion du prochain entretien que j'espère avoir avec vous, de me documenter dessus parce que je commence à voir le lien et j'y travaillerai.
Ouais.
Voilà, une manière intéressante de sortir d'une situation qui peut être embêtante.
Tony Resch, et on vous donne des pistes là, pour les prochains entretiens. Normalement, ça devrait bien se passer. Hein.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous.
Moi, j'ai juste peut-être un petit conseil, Emmanuel, si on a un petit peu de temps pour Tony Resch. À la lecture de son CV, il faudrait vraiment qu'il prenne la réflexion de réfléchir à un projet professionnel. Je sais que travailler, c'est pas évident. Il a multiplié les stages, effectivement, mais des stages dans des domaines qui sont pas forcément les mêmes. Et quand je lis qu'en intro, il cherche une fonction à responsabilité commerciale, managériale, et que tout de suite, je vois stage sans avoir une fonction, je vois pas le lien. Donc c'est dommage parce qu'on est encore aujourd'hui en 2025 avec le CV qui est quand même l'outil par excellence du recrutement. Donc il faudrait faire quand même une meilleure impression avec ce CV. Donc il y a quand même des petits éléments à retravailler, notamment la réflexion du projet professionnel.
C'est ça. C'est-à-dire que si on n'a fait que des stages, on ne peut pas prétendre à un poste à responsabilité. Il y aura peut-être des étapes intermédiaires, si je comprends bien, Agnella.
Des étapes. Absolument. Il y a des étapes. Et le stage, ce n'est pas un métier, ça n'est pas une fonction. Il a certainement fait des choses. Il a tenu une fonction. Il faut qu'il mentionne cette fonction.
Tony Resch, j'espère que nous avons été, que les spécialistes vous ont été utiles. On vous souhaite une belle journée à Brazzaville.
Merci, à vous, Paris.
Merci, bonne journée. Vous nous appelez, les voisins et les voisines. Vous continuez de nous téléphoner, surtout de poster vos CV au 33 7 64 45 51 41. On a plusieurs questions à venir sur les projets professionnels. Justement, d'ailleurs, les reconversions, comment changer de métier, par où commencer. On se retrouve juste après ce super duo Stromae et Pomme, ma meilleure ennemie.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore la voie, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand tu se caches?
De voisins, nous sommes en direct sur RFI, c'est l'émission Emploi. Toutes vos questions sur vos projets professionnels, votre orientation, la formation, les entretiens d'embauche, les CV, pour être plus heureux au travail, pour mieux vous orienter, mieux vous diriger aussi, prendre les bonnes décisions. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Les personnes qui répondent à vos questions sont des spécialistes des ressources humaines. Yana Zoumé, chasseur de tête, Agnella Vekwaku aussi, chasseuse de tête, fondatrice de Agiloya Africa à Abidjan. Et nous donnons la parole à une voisine qui nous appelle, qui travaille à Abidjan. Bonjour Michel, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, bonjour studio.
Michel, vous avez 32 ans. Je voudrais revenir un petit peu en arrière dans votre parcours parce qu'il faut le mentionner quand même, c'est pas dans votre CV. Vous avez passé votre bac à 16 ans, premier emploi d'assistante RH à 19 ans, en même temps que vos études. Vous êtes titulaire de deux licences, une licence en droit des affaires et une autre licence en ressources humaines à l'Université catholique de Douala. Vous êtes bilingue, français-anglais. Et Michel, vous êtes actuellement responsable de développement commercial dans un groupe dans le secteur des mines et de l'énergie et de la logistique. Vous travaillez à Abidjan. C'est un groupe qui a dans son portefeuille client des multinationales. Et parallèlement, vous suivez un MBA à Kedge Business School, où les cours sont à la fois à Dakar, à Abidjan, à Bordeaux, que vous financez vous-même, hein, si je comprends bien. C'est pas le groupe qui vous le finance.
Exactement, c'est moi qui finance mon MBA.
Wow. Bon. Donc vous n'arrêtez jamais, hein, mais vous êtes en pleine réflexion sur votre orientation professionnelle, Michel.
Exactement.
Et pourquoi, ça, Emmanuel, pourquoi vous n'êtes pas épanoui dans votre travail? Vous avez fait le tour du poste?
Alors, ça va faire 10 ans que je fais de la relation client, mais vraiment du customer service jusqu'au key account management aujourd'hui, et du développement commercial aussi. C'est vrai que des fois c'était un pays, et des fois c'est deux, trois pays, mais ça reste la même chose. Et aujourd'hui, je suis fatiguée, je veux voir autre chose. Voilà, à part, je pense à me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours été animée par le secteur corporate. Donc c'est important pour moi de rester dans le monde de l'entreprise, mais plus en tant que responsable commercial. Donc franchement, je voudrais faire autre chose.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement si vous aviez une baguette magique?
Si j'avais une baguette magique, je me verrais plus dans un rôle qui accompagne les entreprises vers le changement organisationnel. Donc j'ai une idée...
Du conseil en fait, hein.
Oui et non, parce qu'il y a certaines fonctions qui en interne qui supportent les entreprises vers ce changement organisationnel-là, et il y a d'autres qui externalisent vers un cabinet, c'est vrai. C'est vrai aussi que je suis passionnée par le développement commercial, mais je suis aussi fatiguée. Donc, si j'avais une baguette magique, je sortirais de là pour voir ce que le monde corporate à offrir, à part ça.
Et Yann Azou, mais qu'est-ce que vous entendez dans le parcours de Michel, dans cette fatigue, entre guillemets? Parce qu'elle a l'air quand même assez active.
Oui, ce sont des secteurs qui sont extrêmement demandants sur des marchés où les choses ne sont pas nécessairement tracées comme ailleurs. Et donc, y arriver, et là, c'est là que Michel a beaucoup de mérite, c'est très demandant. C'est très demandant. Grosse pression, absolument. C'est les grands groupes qui ont des exigences parfois qui ne sont pas, pondérées par des réalités du marché. Je suis sûr que Michel comprend de quoi je veux parler. La question que j'ai posée à Michel, c'est est-ce que elle ne veut plus être dans le commercial pur, mais est-ce que les fonctions qui sont aujourd'hui de plus en plus demandées dans les corporates comme Customer Success Management, c'est pas exactement du customer management. Customer success management pourrait l'intéresser. On est dans tout ce qui est plus stratégique, accompagner le prospect une fois que le commercial passe la main dans son cheminement dans l'entreprise. Anticiper ses besoins, créer la relation de long terme.
On est toujours dans la relation client.
Oui, mais plus dans le commercial pur et dur. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envisagé ou est-ce que même ça, disons,
Michel,
pour savoir un peu vers où on va?
Alors, je comprends très bien le poste. Hein. C'est vraiment... je ne suis pas sûre que ça m'intéresserait parce que c'est un autre type de pression. Vous savez, le business development, il y a la pression du chiffre d'affaires à réaliser. Mais sur un success, il y a la pression de garder le client, de le rendre toujours content, alors que les actions, des fois, ne dépendent pas de nous. Et je l'ai fait déjà. Je l'ai fait en tant que customer service. Donc, quand tu fais du customer service, tu fais du customer experience. Et donc, il y a aussi du customer success, du coup, derrière.
Alors, Aniela Vekwaku, qu'est-ce que vous entendez? Alors, en fait, cette fatigue, c'est une fatigue de la pression, hein, bien sûr, exercée par les clients.
Alors, je n'ai pas reçu Michel, je veux dire, en entretien, mais je crois que c'est une fatigue typique des profils qui sont excellents, qui sont talentueux, qui ont été en action, en hyperaction depuis toujours, et qu'il arrive à un moment donné où faire une petite pause, le temps de faire un bilan professionnel, un bilan de compétences, un bilan de qui je suis, quelles sont mes motivations véritablement et comment ce potentiel-là peut clairement s'exprimer dans un projet qui me correspond pour que je ne sois plus à aller contre moi, en fait, finalement. Ce qui peut épuiser aussi, c'est d'être dans un espèce de train où on avance, mais on met de l'énergie qui n'est pas forcément alignée avec ce qu'on est et nos aspirations. Et arriver à un stade comme ça, il peut être très compliqué, effectivement, de faire de la lumière dans cette situation seule. Donc, ça fait vraiment écho au bilan à faire qui mettrait en lumière, finalement, toutes ses compétences, ses connaissances, vraiment le bagage motivation, environnement, pour identifier un projet qui corresponde véritablement, parce que sinon elle peut continuer à mettre son énergie dans autre chose qui ne correspond pas, et la fatigue, elle ne va pas disparaître comme ça par magie. Sinon, sur base de son expérience, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. On peut parler de consultance en transformation, en interne dans une entreprise, de coordination sur de la RSE. Peut-être qu'il y a des valeurs comme ça qui pourraient s'exprimer mieux dans ce domaine aussi. Donc il y a de la réflexion à avoir, véritablement. Mais il faut la pousser. Hein. Je ne pense pas sans prétention qu'on pourrait répondre à tout aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et se faire accompagner professionnellement peut l'aider à identifier la suite pour
faire
elle.
Une petite pause, Michel, plutôt que de tout de suite passer à un autre emploi, de chercher un autre poste, finalement. Michel, vous êtes prête à ça, à faire une petite pause?
Je pense que... Ouais,
il faut avoir un peu les moyens financiers.
En ce qui concerne la recherche d'emploi, c'est compliqué si je ne fais pas de pause, parce que tous ceux qui viennent vers moi ou vers qui je vais, j'ai tendance à repartir vers la responsabilité commerciale.
Et parce que vous êtes identifié comme tel. Michel, on vous remercie en tout cas pour cette question et pour cette transition qui s'annonce à la fois salutaire, mais pas forcément facile. Très belle journée à vous. Michel, merci de nous avoir appelé d'Abidjan. On continue de prendre des auditeurs. 33 7 64 45 51 41. Géraldin est en ligne avec nous de Yaoundé. Bonjour Géraldin.
Bonjour Delphine, bonjour.
Moi c'est Emmanuel, mais Delphine, vous l'avez eu au téléphone, c'est elle en effet à qui vous postez les CV. Géraldin, vous avez 33 ans, vous avez travaillé pendant 5 ans comme réceptionniste d'hôtel, hein, c'est bien cela ?
C'est bien ça Emmanuel, c'est bien ça.
Et donc là, vous faisiez l'accueil, l'attribution des chambres, l'encaissement, le suivi des fiches de police, etc. Et vous avez aussi travaillé 6 mois à la CNPS, qui est un organisme public de retraite au Cameroun, pour pousser les gens à souscrire à une assurance retraite, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est bien ça, Emmanuel.
Donc, il y avait un aspect un petit peu plus commercial, là, hein, pour que les gens se protègent mieux en prenant cette assurance. Et ça a bien marché, cette expérience-là de 6 mois.
Parfaitement.
Et alors, quelle est votre question, alors, Géraldin, aujourd'hui? Vous ne souhaitez plus travailler dans un hôtel?
Ce que je souhaite, c'est de travailler dans un organisme public comme la CNPS. Si je pouvais être recruté à la CNPS, j'allais fournir tous mes efforts possibles pour faire le bon boulot comme je l'ai toujours fait. Parce que j'ai beaucoup aimé travailler à la CNPS par rapport à l'hôtel.
Et pourquoi ça n'a pas été possible?
Ça n'a pas été possible pour moi, peut-être parce que je n'avais pas le bras long, c'est-à-dire je n'avais personne qui pouvait me soutenir ma candidature jusqu'au niveau du directeur général.
Agnella Vekwaku, que pouvez-vous conseiller à Géraldin? Vous avez son CV sous les yeux, hein?
Alors, moi, j'ai son CV, effectivement, peut-être juste, il y a des informations intéressantes, mais on ne les voit pas facilement parce qu'ils ne sont pas sur un template. Ça n'est pas une carte d'identité, le CV. Aujourd'hui, il faut que le fond porte la forme. Et vous avez en téléchargement pas mal de templates intéressants avec des rubriques où vous remettrez en lumière vraiment.
Pour vous aider à avoir une meilleure
objectif.
Mise en page. Hein.
Voilà. vos compétences et tout. Après, son objectif, clairement, c'est de repartir à la CNPS parce qu'il y a eu une belle expérience et que l'environnement correspondait à ce qu'il souhaite. Il ne faut pas se décourager. Le bras long, oui, mais bon, peut-être que tous les employés là-bas n'ont pas forcément le bras long. Donnez-vous les moyens pour rester connecté aux personnes qui y travaillent. Montrez votre motivation, n'arrêtez pas. Essayez de voir avec eux ce que vous pourriez apporter. Voyez, on parlait du réseau, le réseau il est important. Ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Essayez vraiment. Est-ce que vous avez maintenu les relations avec des personnes là-bas ?
À la CNPS ?
À la CNPS, oui, j'ai maintenu, il y a une relation, Madame Baga qui est au secrétariat général du DG, c'est la seule relation que j'ai.
Bon, bah, vous lui faites un petit coucou déjà, si elle nous écoute. Hein.
Oui, voilà. Oui, et puis d'en avoir, vous savez, c'est pas pareil, hein, quand une personne parle de vous et qu'une deuxième et qu'une troisième, on commence à prêter l'oreille, on se dit « Ah bon, d'accord, on va peut-être prêter attention à son profil, vous voyez, ouais. Donc ne lâchez rien, continuez. »
La réputation, ça peut remplacer le bras long aussi, être très efficace. Merci à vous, Géraldine, de nous avoir appelé. Vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Élie nous appelle, il a 35 ans, il est à Libreville. Bonjour Élie.
Oui, bonjour à vous.
Élie, vous êtes actuellement chauffeur VTC à Libreville, est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Et donc, quel est votre parcours et puis qu'est-ce que vous souhaitez et quelles sont vos questions, Élie?
Bah, je suis psychomotricien de formation. J'ai obtenu mon diplôme en 2023.
Oui.
Oui, j'ai posté mon CV pour vous poser des questions.
On vous écoute, hein, Élie. Je précise que votre diplôme, c'est une licence à l'Institut panafricain de psychomotricité de Douala, au Cameroun, hein, et vous travaillez actuellement à Libreville. Donc, vous n'avez pas pu exercer hein, dans ce domaine. Alors, du coup, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, Élie?
Bon, en fait, je vais poser la question suivante. En fait, j'ai quitté l'école, ça va faire 2 ans. Et est-ce problématique du fait que je n'ai pas trouvé d'emploi jusqu'à présent?
Dans votre domaine?
Oui, oui. Parce que l'emploi que j'ai fait présentement, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école, en fait.
Eh oui. Alors, très concrètement, Yana Zoumé, qu'est-ce qu'on fait figurer sur un CV quand on n'exerce pas du tout le job pour lequel on a été formé et que, visiblement, Élie, vous souhaiteriez revenir plutôt dans le domaine de la psychomotricité, de l'enfance, de l'enseignement? C'est bien ça, Élie?
Oui, c'est bien ça. Mmh.
C'est une vraie problématique qui se pose souvent. Tout le challenge est d'arriver à concilier les obligations de la vie, c'est-à-dire travailler et se nourrir, avec le métier de son cœur. Et quelque chose que Élie peut faire, Élie, vous me direz ce que vous en pensez, c'est de, à côté de son travail, de maintenir une activité paraprofessionnel ou éventuellement même social, d'engagement social dans ce domaine-là, histoire de ne pas perdre le contact et de continuer à pratiquer, de mettre en application les compétences liées à ce métier-là. De sorte que quand l'opportunité ou une opportunité se présentera, il est continué à développer les connexions avec le métier et que la manière dont le métier a évolué ne lui échappe pas complètement. C'est quelque chose comme ça que je peux recommander à Élie.
Élie, donc, identifier peut-être une association pour être bénévole, hein, tellement à faire pour la cause de l'enfance sur le continent africain que vos compétences seront les bienvenues, même si vous n'êtes pas payé pour ça dans un premier temps. Mais si vous avez votre activité de chauffeur par ailleurs, peut-être que c'est une façon de vous reconnecter. Hein, c'est ce que vous disiez, Yann.
Oui, oui, c'est ça, exact.
Vous êtes toujours en lien avec des associations, par exemple?
Bah, je ne suis pas en lien, mais c'est juste que présentement, je suis dans une fondation. J'exerce précisément le métier que j'ai appris. Donc, ça va faire 2 mois par là. Donc, j'allie, comme le monsieur vient de dire, en même temps la formation et en même temps le métier de VTC. Donc, j'allie les deux.
C'est ça. Donc, ça va peut-être déboucher sur un emploi. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Élie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Un dernier auditeur, Amadou nous appelle, 27 ans, à Dakar. Est-ce qu'on a bien Amadou en ligne?
Ouais.
Bonjour, Amadou. Soyez le bienvenu. Alors, Amadou, vous avez 27 ans, hein, c'est bien ça?
Oui, oui. 27 ans, mais aujourd'hui, je... Ah, excusez-moi. C'est le stress.
Pas de stress. Vous ne passez pas d'entretien d'embauche, hein, Amadou. Vous savez, on est entre nous, là, chez 8 milliards de voisins. Vous êtes en famille. Alors, vous avez une licence en sciences sociales des religions à l'UGB de Saint-Louis, qui est une université prestigieuse, hein, l'université Gaston-Berger. Mais, si j'ai bien compris, ce n'est pas une filière que vous avez choisie. Hein. Ce n'était pas du tout votre premier choix.
Oui, effectivement.
Bon, merci les services de l'orientation au Sénégal. Hein. Hélas, vous souhaitiez, comme premier choix, être dans une filière de sciences juridiques et politiques parce que votre vrai projet professionnel... Alors, c'est vrai que Agnella et Yann disent souvent aux auditeurs « Ah, vous n'avez pas de projet professionnel construit. » Mais vous, votre rêve, c'était de devenir enquêteur de police, hein, commissaire de police, c'est ça, Amadou ?
Oui, effectivement, c'est ça.
Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et quelles sont vos questions, Amadou, après cette petite erreur d'aiguillage, mais vous n'avez que 27 ans, la vie est longue.
Oui, permettez-moi d'abord, bonjour Emmanuel, bonjour Agnella et bonjour Yann. Mes deux questions, la première est que ça concerne mon ambition, c'est de devenir un enquêteur. Maintenant, est-ce que je peux intégrer dans la police, en, autrement dit, faire un concours direct pour insérer dans ce domaine, sans faire des cours juridiques.
Alors,
il y a pas mal de
réponses déjà sur le site du ministère de l'Intérieur, hein, mais globalement, quand même, un peu partout dans le monde, on rentre toujours dans la police sur des concours. Mais il y a des concours qui sont plus ou moins accessibles juste après le bac. Mais c'est sûr qu'il faudra revenir quelques années en arrière. Yann Azoumé, est-ce que vous avez un autre conseil à donner à Amadou qui hésite aussi entre prof d'anglais, puisque pour le moment, c'est un peu là-dedans qu'il exerce, en attendant?
Oui, tout à fait. Les possibilités existent effectivement de rentrer par un concours dans la police nationale et de grimper les échelons avec le temps. Sur la question de l'anglais où, qu'il exerce aujourd'hui, au moins, à défaut de diplôme, peut-être passer des certifications comme le TOEFL qui est lié au milieu académique et qui peut lui permettre d'avoir une forme de légitimité dans l'enseignement de l'anglais.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Amadou. Merci à vous tous d'avoir posté vos questions et vos messages. Pour ceux qui n'ont pas pu passer en direct, toutes nos excuses, vous serez prioritaires, c'est promis, la prochaine fois. Et pour tous les jeunes diplômés aussi qui nous écoutent, n'hésitez pas à poster vos CV, vos questions. C'est pas facile de passer en direct dans l'émission, mais Agnella Vekwaku et Yann Azoumé sont là pour vous écouter, pour vous aider. Merci à tous les deux. À suivre dans quelques instants un nouvel épisode de notre série Le succès des repates, mais tout de suite je vous propose le choix musical de la playlist RFI, un artiste ghanéen, Guédoublé Ambolé, Wake Up Africa.
Time is here, brother. The time has come to wake up Africa. Younger generation, the time has come to wake up Africa. They know that it's time. The time has come to wake up Africa. Now listen here, bro. African leaders, fuck up. Politicians, they fuck up. Judiciary, fuck up. Religious leaders, fuck up. Council of States, fuck up. House of Chiefs, fuck up. Africa, it's a crime scene. Oh, brother. Education, fuck up. Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads, fuck up. This happens when educated fools are in control. Now the spirit is with the younger generation, and they're gonna chase all the crazy bald heads out of town. Now listen, people. University degrees, fuck up. PhDs, fuck up. Financial institutions, fuck up. Police service, fuck up. Military, fuck up. Our media, fuck up. Oh, Mother Africa will punish all of you.
time has come to wake up Africa. The time is now, the time has come to wake up Africa. Africa is wide awake. The time has come to wake up Africa. With a new spirit of black unity. The time has come to wake up Africa. Yeah, the cockroaches. Time to go. How long are you going to promote this intellectual castration that has caused the children of Africa to suffer? Everywhere in the world, time has come to wake up Africa. As long as you're black, you are not black. Time has come to wake up Africa.
Come back home.
Yeah, man. Educated fools fuck up. Doing politics, fuck up. Without principles, fuck up. Fighting to be rich, fuck up. Without laboring, fuck up. Doing religion, fuck up. Without sacrifice, Mother Africa will punish all of you one by one. That's right. Time to change the crazy boy heads away, for they are tired and have betrayed Africa for so long.
Et voici maintenant un nouvel épisode de notre série Le succès des repates, à découvrir en intégralité en podcast.
Le succès des repates.
On ne peut pas rester à distance et vouloir que les choses bougent sans que nous on fasse quelque chose pour qu'elles bougent.
C'est très important de créer des emplois localement.
Ici c'est compliqué, j'ai fermé mes oreilles tout simplement et je me suis lancé.
Quand elle est rentrée à Libreville, au Gabon, Karine Ozouaki n'avait pas prévu de se lancer dans la fabrication de cosmétiques. Et pourtant, il y a 10 ans, elle a créé sa marque. Un projet qu'elle a financé sur ses fonds propres, elle qui travaille à temps plein en même temps dans une banque. Notre reporter Charlie Dupio l'a rencontrée chez elle, dans sa cuisine reconvertie en atelier. Karine Ozouaki est en train de préparer des baumes pour les lèvres.
Alors là, c'est le beurre de cacao, made in Gabon, fourni par un producteur local. Et là, j'ai du beurre de karité qui me vient des producteurs au Burkina Faso. Voilà, il est préchauffé, donc je vais réduire le feu et je vais mettre la poêle de côté.
Donc c'est ici, chez vous, que vous fabriquez vos produits cosmétiques?
C'est ça. Je fabrique de l'huile de coco, je fabrique de l'huile de karité, de cacao, les savons à base végétale.
Alors moi, Karine Ozouaki, je suis née à Mivoula, au Grand Nord, du Wolentem, au Gabon. Et j'ai grandi à Libreville. Alors moi, ma mère, elle était infirmière d'État. On a eu une famille monoparentale. Je suis allée au lycée national Léon Bas. Donc c'était un grand lycée de la place au Gabon et qui a formé la plupart des cadres gabonais et les administratifs. Donc voilà.
C'est un lycée public.
Oui, un lycée public. Et puis finalement, l'opportunité que j'ai eue, c'est d'avoir une inscription en France. Et j'ai été boursière du gouvernement gabonais. Je suis allée en France, notamment à Bordeaux. Et ensuite, je suis entrée dans une des grandes écoles de commerce, INSEC Bordeaux. Dès que j'ai terminé, j'ai eu mon premier emploi au Gabon avant même de démarrer mon entreprise. Ben, après mon dernier stage, j'ai été recrutée par une banque de la place.
Alors le retour, c'était immédiat, après les études?
Je n'ai pas fait une semaine de plus. Je suis restée 5 ans en France, mais j'ai passé la plupart des vacances au Gabon. Pendant que j'étais en France, ma mère, elle est partie. Elle doit sûrement m'écouter des cieux. J'étais en master 1 quand elle est partie. Le devoir m'appelait quelque peu parce que j'avais mes petites sœurs qui étaient là derrière. Je n'étais pas l'aînée, mais j'avais cette conscience-là. J'avais besoin d'être là auprès de mes sœurs. J'aurais pu les faire venir en France. C'était des futures étudiantes qui passaient leur bac. Donc, elles auraient pu avoir le bac et on aurait pu faire le tout pour qu'elles aient une bourse gabonaise et puis qu'elles arrivent en France et qu'on vive ensemble. Et puis après, chacun trouve un travail, puisque la conception du monde normal aujourd'hui, c'est de faire venir les gens d'Afrique vers l'Occident. Moi, j'ai choisi de venir en Afrique et de leur donner le meilleur que je pouvais leur donner sur place et de me construire en Afrique. Rien que le fait de venir au Gabon, de répondre déjà à mon engagement décennal, parce que lorsqu'on est boursier du gouvernement gabonais, on a un engagement décennal qu'on signe pour revenir quelque peu retrocéder ce que l'État a investi sur vous, pour travailler pour le Gabon. Et ce qui m'a fait créer mon entreprise, malgré, je veux dire, ma découverte et je veux dire mon amour pour ce métier de banque, je fais un premier bébé et puis ma grand-mère me dit, il ne faut pas mettre les crèmes que vous mettez au bébé, il faut plutôt lui mettre de l'huile de palme blanchie. Ok, c'est quoi l'huile de palme blanchie? Je prends, elle me montre et puis finalement je commence à l'utiliser pour mon bébé et je vois véritablement l'effet sur la peau du bébé. J'utilise cette huile, j'en parle un peu autour de moi. Mais qu'est-ce que tu lui mets? Je lui dis, mais je mets ça. Ah oui, mais moi, c'est ce que je peux m'en faire pour que je puisse tester sur mon bébé. Ah, pourquoi pas? Je fais une première personne à une première copine qui me demande. Ensuite, je commence véritablement en autodidacte à me former. Qu'est-ce que c'est la composition d'eau et le mélange d'eau et d'huile? Pourquoi? Comment? Les mesures? Je me mets vraiment à fond à découvrir c'est quoi l'univers de la cosmétique. Et de là, tout est parti. Créer une entreprise à partir de rien, c'est ça qui me passionne. C'est de voir d'où je viens, d'où je suis partie, d'une bouteille d'huile de palme que ma mère utilisait pour la cuisine. Et aujourd'hui, mais c'est une entreprise qui existe. C'est des produits qui sont connus et consommés par le consommateur gabonais. Peut-être sélectif, mais c'est un produit qui est consommé, qui est connu.
Sélectif parce que c'est un certain prix.
Oui, sélectif par le prix, parce qu'effectivement, les conditions auxquelles aujourd'hui on produit ne nous permettent pas d'avoir les prix accessibles à toutes les couches sociales.
C'est combien, par exemple, un baume à lèvres?
Alors, un baume à lèvres de 10 ml, il a 5 000 francs. On va dire à peu près...
7,50 €?
7,50 €, 8 €.
Donc, c'est quand même un certain prix.
C'est quand même un certain prix, parce qu'en fait, les contenants nous viennent d'ailleurs. Je ne pourrais pas avoir un contenant fabriqué au Gabon.
Ils viennent d'où, les contenants que vous achetez?
Les contenants viennent de France. Aujourd'hui, mes perspectives, demain, ce serait peut-être de commencer à voir comment exporter ça aussi. J'étudie réellement le secteur de la cosmétique et comment il peut évoluer et quelles sont les normes au Gabon et quelles sont les normes internationales qui sont exigées pour l'export aux États-Unis, en Afrique, un peu partout. Mais vraiment, le projet de départ, c'était d'avoir un laboratoire au Gabon qui pouvait servir de plaque tournante parce qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires en Afrique, notamment pour les cosmétiques. Je n'avais pas l'intention de rester en France en réalité parce que je me suis toujours posé la question, mais si on part tous de l'Afrique, si on part tous du Gabon, qui va construire le Gabon, qui va construire l'Afrique?
Et sachez que Karine Ozouaki prévoit d'ouvrir son atelier de production à Libreville d'ici à la fin de l'année. Elle qui a déjà une boutique en ville dans laquelle elle vend ses produits et propose des soins. Le succès des Repats, ce sont des histoires de création d'entreprises très variées, des hommes, des femmes qui sont revenus au pays pour tracer leur propre chemin. Et vous retrouvez tous les épisodes en podcast. Est-ce que ça vous a plu, Agnella Vekwaku, la chasseuse de tête à Abidjan?
Alors, non seulement c'est très parlant, c'est très inspirant, ça résonne. Revenir en Afrique, c'est pas juste changer de continent, c'est changer parfois de mindset. Et il suffit pas d'avoir une idée hein, ou un beau parcours, il faut savoir écouter, il faut savoir s'ancrer localement, il faut savoir comprendre les besoins et puis parfois tout réapprendre. Et je pense que c'était vraiment le cas du témoignage qu'on a entendu. C'est pas juste un retour, des fois c'est une relance. Et pour beaucoup, on le voit, c'est même se donner vie une deuxième fois. Et les conditions de la réussite sont souvent l'humilité, la résilience, la curiosité et puis une vraie capacité à s'ajuster tout le temps.
Ouais, et puis on sent que c'est un peu vécu. Hein, chez vous, Agnella Vekwaku, fondatrice du cabinet Agiloya Afrique, merci beaucoup d'avoir été en lien avec nous d'Abidjan. Merci à vous, Yann Azoumé, vous revenez très bientôt.
Mais avec plaisir.
Pour conseiller les voisins et les voisines sur leur recherche d'emploi, merci à l'équipe. Juliette Brault, Delphine Cachin, Diego Tenorio, Pauline Berthélémy, Thibaut Mata. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et demain on parlera éducation. À l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, il sera question du tabou des règles, de l'absentéisme scolaire des jeunes filles. Dans certains pays, elles manquent en moyenne 5 jours d'école par mois à cause de leur cycle menstruel. Comment finir avec ce gâchis scolaire? Quelles solutions? Vos témoignages, bien sûr, seront les bienvenus. À demain!